France Culture, les matins, Benoît Bouscarel.
Comment la littérature peut-elle s'emparer du réel pour résonner dans l'actualité et nous permettre de la regarder sous des angles neufs ou en tout cas différents et changeants? Nous sommes ce matin avec Karine Thuil, romancière, auteure de nombreux ouvrages, dont le dernier, Les choses humaines, paru chez Gallimard, a obtenu le prix Interallié et le prix Goncourt des lycéens en 2019. Bonjour Karine Thuil.
Bonjour.
Roman inspiré de faits réels, hein, Les choses humaines, même si c'est véritablement un roman totalement en phase avec une actualité forte ces derniers mois autour des questions relatives au rapport homme-femme, aux questions de viol, de violence, de domination, de harcèlement et de consentement. On va y revenir. On reconnaît souvent les bons romans à ce qu'ils peuvent dire des problèmes sociétaux du moment, en les décortiquant, en leur apportant de la nuance et aussi bien sûr du romanesque, en permettant aussi un processus d'identification du lecteur. Il parle ses romans et c'est ce qui se passe avec Les choses humaines, l'histoire d'une famille déchirée, détruite par des enjeux de pouvoir, de domination, par la puissance dévorante du sexe aussi. Une famille médiatique et présentant tous les aspects extérieurs de la réussite, dont le fils va se retrouver accusé de viol, Alexandre. Il sera condamné. Alors précisons peut-être avant d'entrer un peu plus dans l'histoire, Karine Thuil, que vous avez engagé ce travail d'écriture bien avant la phase et la vague MeToo.
Oui, j'ai commencé à travailler sur ce sujet en juin 2016, après avoir pris connaissance d'un fait divers qui n'a pas eu un grand retentissement en France, qu'on a appelé aux États-Unis l'affaire de Stanford, et qui opposait un jeune étudiant de l'université de Stanford et une jeune femme qui était présente sur le campus lors d'une soirée et qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement. Et aux États-Unis, ça avait engendré une vague d'indignation parce que le verdict avait été considéré comme trop clément, 6 mois de prison dont 3 fermes. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'à l'époque, le père de l'accusé avait dit au juge, on ne peut pas détruire la vie de mon fils qui a tout réussi pour 20 minutes d'action. Et finalement, ces termes 20 minutes d'action expliquaient l'incompréhension qu'il y a aussi sur ces sujets, sur le sujet du consentement. Et j'ai commencé à travailler.
Et sur le sujet des violences, effectivement. Alors vous reprenez ce terme, le père d'Alexandre, qui est un journaliste très connu, un journaliste politique, qui est aussi un mondain, reprend ce terme. Ce qui vous a motivé, c'est aussi donc votre, et c'est un point de départ, votre formation de juriste, Karine Thuil?
Oui, exactement. Alors ça, c'est au départ inconscient, c'est-à-dire que j'ai commencé à assister à des procès pour viol aux assises. Et puis, c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on voit de l'intérieur le fonctionnement, les failles, les fractures de notre société, y compris sur les questions des violences sexuelles. Et j'ai eu envie aussi de les raconter dans un livre. Et puis, c'est vrai qu'à l'audience, c'est l'accusé qui est au centre du dispositif. Et dans mon livre, je raconte une histoire de violence du point de vue de l'accusé et de sa famille. Ce qui n'avait jamais été fait, et c'est ce qui aussi rendait l'exercice aussi intéressant, parce que j'aborde aussi, outre la question des violences, la question des droits de la défense, du respect du contradictoire, et du droit finalement à chacun aussi, à se défendre en cas d'accusation.
Et vous rajoutez de la nuance, c'est ça un des enjeux de ce livre. Vous décrivez de façon très neutre hein, tout ce qui se passe, mais dans le détail.
Oui, parce qu'il voulait vraiment raconter de l'intérieur ce que ça représente pour la victime et pour l'accusé. Donc la victime, même si elle n'est pas au cœur du roman, puisque on n'est pas dans sa tête, on suit quand même tout ce qu'elle vit à travers la procédure judiciaire, le dépôt de plainte, au commissariat, la violence des questions qui sont posées par la police quand une victime vient déposer plainte, les questions intrusives des juges, la violence de l'audience. Donc tout ça est raconté et décortiqué dans le livre. Et c'était d'ailleurs un véritable défi, c'est-à-dire comment aborder un sujet aussi sensible, mais en conservant une part romanesque, parce que, comme vous l'avez dit très justement, c'est un roman. Je voulais que le lecteur soit happé aussi dans sa lecture par cette histoire et finalement qu'il se pose la question lui-même. Et si ça m'arrivait, en tant que mère, en tant que père, en tant qu'accusé, en tant que victime? Et finalement, le lecteur dans ce livre est un peu en position de juré.
Ah, il est en position de juré, en position de juger. Vous ne jugez pas, Karine Thuil?
Non, je ne juge pas. Je pense que c'est très difficile de juger les hommes.
Et ça a été difficile à faire, justement, de ne pas juger?
J'ai essayé de ne pas juger, justement, en choisissant cette position d'observatrice, hein, d'une certaine façon. Je ne prends pas parti. Et puis, c'est au lecteur, finalement, d'avoir sa propre opinion en fonction de son éducation, de son vécu, de sa culture aussi, de son sexe. Un homme et une femme ne lisent pas le livre de la même façon, selon l'âge aussi, la génération. Je l'ai senti avec beaucoup d'acuité au moment des rencontres pour le Goncourt des lycéens. Je voyais bien que les nouvelles générations n'abordent pas du tout tout ces questions-là de la même façon que les anciennes générations.
On va revenir peut-être sur les liens que vous avez eus et les questionnements qui ont eu cours avec ce jury du Goncourt des lycéens Karine Thuil. Cette famille, les Farrell, elle n'est finalement qu'une façade. C'est assez creux, hein, une façade parce que c'est plus facile de faire croire que tout va bien. C'est une façade aussi pour le pouvoir. Hein, on l'a dit, Jean est un homme de pouvoir. Sa femme, Claire, la mère d'Alexandre, est aussi quelqu'un d'important dans le milieu de l'édition. Tout ça, c'est un tableau bien sombre que vous brossez quand même de l'humanité et des rapports sociaux et de la société d'aujourd'hui.
Je crois que c'est un portrait lucide. Alors c'est difficile pour nous d'accepter que la société présente cette noirceur, y compris dans les rapports humains, parce que effectivement dans le livre je montre notamment à travers l'usage des réseaux sociaux, la mise en scène d'un bonheur virtuel sur Instagram, la façon dont les gens mettent en scène aussi leur réussite professionnelle sur Twitter. Donc c'est déconcertant, mais je crois que c'est un portrait assez lucide. Et la part finalement d'humanité, la part qui échappe à tout contrôle, c'est le sexe. Et on le voit bien à travers le personnage de Claire, qui est la mère d'Alexandre, qui, quand le livre s'ouvre, vit une très grande passion amoureuse et sexuelle avec un homme de son âge, et quitte absolument tout ce qu'elle a construit. Donc peut-être que voilà, c'est le seul élément qui échappe totalement au contrôle et qui reste cette part à la fois d'humanité et de beauté, c'est la sexualité, mais aussi dans ce livre, on découvre la part de noirceur et de violence que peut représenter la sexualité.
Ouais, même si tous les personnages sont ambivalents, il n'y a pas de salaud, il y a des attitudes qui sont parfois révoltantes, mais là non plus vous ne jugez pas sur ce point-là. Et c'est vrai que chaque personnage, on peut s'identifier qui qu'on soit quand on est lecteur, et il n'y a pas de jugement non plus, et personne n'est tout blanc ou tout noir.
Non, parce que je crois que c'est le propre de la condition humaine et de la nature humaine d'être double en fait.
Qu'est-ce qui nous fait tout ça? Qu'est-ce qui nous pousse à abandonner les choses, qui nous pousse peut-être à la compromission aussi, parfois, surtout le sexe. Vous l'avez dit, il y a pas que le sexe dans votre livre, on voit bien, et on l'a dit déjà, l'injonction de la réussite, la reproduction sociale, on peut y venir, l'esprit de compétition, ça c'est quelque chose aussi. Alexandre est un jeune homme bien mis et qui fait de grandes études aux États-Unis. La religion aussi nous empêche parfois de vivre une vie libre, peut-être. Le mariage, les réseaux sociaux. Alors, venons à tous ces points, Karine Thuil. Vous abordez tout ça dans ce livre?
Oui, c'est la grande question finalement qui est récurrente dans mon travail, de la place sociale. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour conquérir sa place sociale et la conserver? Alors, on voit le personnage de Jean qui est prêt à tout, qui vient d'un milieu simple, qui est autodidacte, et qui, pour conserver son poste à la télévision, est vraiment prêt à toutes les compromissions politiques, sociales, humaines. Et puis, on voit les autres personnages qui, parfois, sont entravés dans leur parcours professionnel parce qu'ils, comme Claire, par exemple, ils ont une passion amoureuse, comme Adam, son amant, qui finalement va quitter sa femme et toute sa famille, va faire exploser sa vie avec les risques que l'on découvre dans le livre. Donc on voit tous ces personnages finalement soumis à un point de fracture, à un point de bascule. Qu'est-ce qui se passe au moment de la chute?
La religion, pourquoi avoir placé justement l'amant de Claire dans cette religion juive qui est quand même assez présente dans le livre?
Oui, sa fille sa femme plutôt, son ex-femme est devenue juive pratiquante après un événement traumatique. J'avais envie aussi d'aborder dans ce livre la question de la condition de la femme aujourd'hui, avec différents portraits de femmes d'ailleurs que l'on découvre dans le livre, et aussi la façon que l'on a plutôt les religions dans notre société, cette tentation de couvrir le corps des femmes, de leur accorder une moindre place. Et c'est vrai que j'ai plutôt eu envie de choisir le judaïsme orthodoxe parce que je le connais moins que d'autres religions, et notamment l'islam, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur la question du voile et le fait qu'on couvrait le corps des femmes. Et on voit aussi cette jeune fille, donc finalement Mila, qui accuse du viol, qui est littéralement écrasée par la culpabilité, par l'ambiance dans laquelle elle évolue auprès de sa mère, qui effectivement a fait une application rigoriste de la religion, qui couvre son corps et qui voudrait que sa fille fasse de même.
Dans une société qui avait fait de l'exhibition d'un bien-être virtuel le baromètre de la réussite sociale, ce sont vos mots, Karine Thuil, on voit, et on va revenir là-dessus un instant, que les réseaux sociaux ont une importance catastrophique finalement, pratiquement sur nos vies.
Oui, tout à fait. Et ça, d'ailleurs, il y a eu de très grands débats quand le livre a été publié sur ces questions-là, parce que je vois bien que finalement, nous participons tous à cette exhibition de nous-mêmes. Alors moi, je suis restée un temps sur les réseaux sociaux et puis j'ai décidé de m'en retirer. Et on voit mes personnages mettre en scène leur vie, surtout Jean et aussi son fils, donc cette jeune génération qui propose sur Instagram notamment une mise en scène d'un bonheur artificiel et qui occulte totalement le ressenti profond et qui évidemment va finir par altérer les rapports humains. On va vers une société de plus en plus codifiée, contractualisée, où finalement les rapports les plus simples vont être les rapports les plus rares.
Ouais, c'est un peu l'épilogue du livre d'ailleurs, sans dévoiler quoi que ce soit de la fin de ce roman, Les choses humaines. Chez Jean quand même, chez Jean Farel, le père donc d'Alexandre, il y a aussi une revanche sociale à prendre. Ça, c'est aussi un thème récurrent chez vous.
Oui, Karine tout à fait. Lui, sa mère était une prostituée toxicomane, il s'est construit seul. Et ça, c'était intéressant pour moi aussi, à travers ce personnage, d'aborder la question de l'ascension sociale, des rapports sociaux aussi qui sont très présents et très forts dans le livre. C'est-à-dire que lui vient d'un milieu très simple, mais une fois qu'il appartient aux sphères de pouvoir, il ne veut absolument plus côtoyer ce milieu simple. Et quand cette jeune femme, Mila, qui elle vient d'un milieu modeste, va les accuser, sa première réaction sera de dire « personne ne va la croire, moi je vais embaucher le meilleur, engager le meilleur avocat ». Et finalement, on voit bien qu'il y a aussi une confrontation des univers sociaux qui est très forte. Lui, grâce à son ascension professionnelle, appartient aux élites désormais.
Ouais, et ça aussi, c'est un des messages que vous vouliez faire passer dans ce livre, probablement, Karine Twill. On n'est pas égaux devant la justice. Alexandre, tout comme cet étudiant de Stanford dont vous parliez au début et qui a inspiré le personnage d'Alexandre, va finalement être condamné à une peine assez légère au regard des faits pour lesquels il est jugé.
On n'est pas tous égaux pour la simple et bonne raison que les juges et les jurés vont d'abord se concentrer sur la personnalité de l'accusé. C'est-à-dire que si vous avez des garanties, que vous venez d'une bonne famille, que vous avez des relations, que vous êtes, que vous n'avez pas de casier judiciaire, évidemment, on va chercher à vous épargner la prison. C'est une réalité. Et pour avoir assisté à de très nombreux procès pour viol aux assises, effectivement, je me suis rendu compte que quelqu'un qui est un immigré sans papier et qui n'a pas de domicile fixe ne passera même pas par la case contrôle judiciaire. Il sera incarcéré dès l'arrestation et il va passer tout le temps de l'instruction en prison, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui a une garantie. Donc oui, d'une certaine façon, il y a une inégalité, mais cette inégalité s'explique aussi par la capacité de chacun à proposer, à apporter des garanties au juge.
Ouais, à manier la parole aussi. Tout ça, vous l'avez vécu en tant que juriste, Karine Twill, dans votre vie antérieure de juriste ?
Non, parce que je n'ai jamais exercé, en fait, je voulais être écrivain, donc j'écrivais en parallèle de mes études, mais je l'ai ressenti.
Vous l'avez observé.
Je l'ai observé, je l'ai ressenti très fortement en assistant pendant 2 ans à des procès, et puis je le constate dans ma vie de tous les jours en tant qu'écrivain. Quand vous parlez bien, quand vous avez les clés du langage, la force de l'éloquence, vous parvenez à vous extraire des situations les plus difficiles, et on le voit bien dans le livre. Alexandre, parce qu'il parle bien, parce qu'il a cette aisance-là est beaucoup plus crédible face aux jurés que Mila, la jeune femme qui l'accuse, qui, elle, n'a pas les codes, n'a pas les réseaux, ne sait pas bien se défendre, ne sait pas bien se parler. Donc, les rapports sociaux jouent à plein pendant l'audience.
Vous avez voulu montrer, justement, cette audience, Karine Twill, la décortiquer. Elle prend une grande place dans ce livre. C'était pour rajouter du contradictoire, pour rajouter de la nuance et pour, comme ça, permettre au lecteur de se faire son avis et surtout de ne pas avoir forcément un avis tranché au début comme à la fin.
Alors en réalité, j'étais passionnée. J'étais passionnée par ce sujet, par cette façon de découvrir un monde à travers l'audience, et j'ai finalement voulu entraîner mon lecteur et lui faire partager ma passion. C'était un véritable défi, et rien ne me fait plus plaisir aujourd'hui d'entendre des lecteurs qui me disent j'adore le procès, j'ai l'impression d'y être, parce que je me dis que le défi est relevé. Mais au départ, c'était vraiment un plaisir égoïste, c'était faire partager cette passion, parce qu'encore une fois, il faut relire les souvenirs de la cour d'assises. Finalement, l'audience raconte aussi quelque chose de notre société. Ses dysfonctionnements, ses failles, ses fêlures. Aujourd'hui, les salles d'audience, quand vous assistez à ces procès côté spectateur, il y a très peu de gens. Alors que, encore une fois, il me semble qu'on on arrive à percevoir la complexité de notre société en assistant à un procès. Mmh.
Plus que sur le jugement à l'emporte-pièce des réseaux sociaux, par exemple.
Oui, parce que sur les réseaux sociaux, on est sommé de donner notre avis immédiatement, de réagir à chaud, et le livre le raconte aussi, parce que il faut pas oublier que c'est une famille extrêmement médiatique, et quand le fils est accusé, évidemment, les accusations se vivent aussi sur Twitter, le père, la mère, le fils sont lynchés, leurs prises de position antérieures sont rappelées, et on le voit bien aujourd'hui encore, comment on parvient à mettre en ligne sur les réseaux des anciennes paroles, des interviews, des images aussi. Et ça, c'est totalement nouveau parce que vous devez, là encore, être amené à réagir à chaud tout le temps.
La chose judiciaire est une matière pour vous, Karine Thuil. L'actualité aussi. Vos personnages, vous les faites passer par la grande lessiveuse de l'actualité. Hein. La jeune femme qui a été violée se trouvait à l'école juive de Toulouse, au Razatora, au Zaratora, au moment de l'attaque de mars 2012, de l'attentat. Claire, la mère d'Alexandre, était à la Maison-Blanche, stagiaire hier, en même temps que Monica Lewinsky, c'est pour mieux tricoter avec nos vies que vous utilisez l'actualité de cette manière ?
C'est pour que les personnages soient véritablement incarnés, pour que le lecteur, quand le lecteur lise le roman, il ait aussi de l'empathie pour mes personnages, qu'il apprenne à les aimer, qu'il ait envie de tourner les pages. Et donc il faut aussi leur inventer des vies, leur inventer des personnalités, un passé. Et c'est vrai que moi je suis passionnée par l'actualité, le journalisme. Il me semble que dans la vie de tous les jours, dans la société, il y a une matière à réflexion extraordinaire. Et on a vécu, c'est vrai, ces dernières années, des moments tellement traumatiques qu'il les questionner, les aborder dans un roman, c'est aussi une façon de circonscrire le territoire de ses propres interrogations, de sa propre douleur. Le roman permet aussi cela.
Ouais, c'est une des grandes fonctions de la littérature.
Oui, de questionner la société. Alors, le romancier n'a pas de message, n'apporte aucune réponse, mais c'est à chacun, lecteur, d'avoir sa propre façon d'appréhender cette lecture-là.
Vous les broyez quand même, vos personnages, avec l'actualité, Karine Thuil. C'est une façon de montrer à quel point on est fragile. C'est aussi une façon de montrer que la condition humaine, c'est quelque chose de difficile.
Ce qui m'intéresse, c'est le point de chute, en fait. C'est vraiment les anti-héros. Les héros ne m'intéressent pas. C'est ce moment où l'être humain va vaciller, va chuter. Et on le voit très bien à travers les récits et les destins de mes personnages. Quand le livre s'ouvre, ils sont à un certain point de leur vie, de vulnérabilité, certes. Mais en tout cas, ils n'ont pas encore chuté. Et leur ascension est pleine et entière. Hein. Alexandre, il faut le rappeler, est étudiant à Stanford. Il a toujours tout réussi. Et puis, il y a ce point de fracture. Et ils vont sombrer.
Vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens, on y revient, Karine Thuil. Quelle a été la nature de vos échanges avec ces lycéens? Quelles questions vous ont-ils posées? Peut-être sur les rapports hommes-femmes, sur les questions aussi d'actualité?
Alors ça a été une aventure humaine absolument extraordinaire, le Goncourt des lycéens, parce qu'on a eu des échanges assez intenses avec des questions qui les préoccupaient. Ils m'ont tous raconté qu'ils avaient eu de grands débats en classe, mais aussi au sein de leur famille. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le livre aussi a remporté ce prix, c'est que je voyais bien qu'il avait d'une certaine façon contribué à la libération de la parole. Il y a des sujets dans les familles qui sont probablement tabous, et certains lycéens m'ont dit avec le livre, nous avons pu aborder ces sujets avec nos parents, parce que les parents ont souvent voulu aussi lire le livre avant ou après les lycéens. Donc il y avait des questions totalement libres, alors à la fois sur le travail de l'écrivain, mais aussi plus précisément sur la question du consentement. Et c'était intéressant parce que j'ai vu à quel point cette jeune génération est préoccupée par ces questions-là. On sent que c'est une génération qui est préoccupée par les questions d'égalité, par les questions des violences. La société est en train de changer et tous, garçons et filles, participent à cette mutation sociale. Donc si le livre a permis cette libération de la parole et finalement ce dialogue, j'en suis absolument ravie parce que on poursuivait aussi ces dialogues après. Dire qu'il y a une séance de dédicace et là, ils viennent vous parler, parfois de sujets beaucoup plus intimes. Il y en a qui sont venus me parler d'agressions sexuelles dont ils avaient été victimes. Une jeune femme m'avait raconté que un de ses amis avait été accusé à tort. Donc différentes versions. Et c'est vrai que c'était très enrichissant intellectuellement et humainement.
La question du consentement, disiez-vous, a été souvent évoquée dans les échanges et dans les questions que se posent ces jeunes lycéens.
Bien sûr, parce que c'est l'âge de l'éveil à la sexualité. Donc, il y avait des garçons qui me disaient, mais finalement, comment est-ce qu'on peut savoir si une fille est consentante ou non ? Et puis, encore une fois, on a parlé de manière beaucoup plus large des questions des agressions sexuelles, mais qui peuvent concerner aussi des mineurs. Certains ont été agressés dans l'enfance, certains ont été agressés et ont peur de porter plainte. On a évoqué aussi ces questions avec eux. Qu'est-ce que ça signifie aller au commissariat, porter plainte ? Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a un très grand nombre d'agressions sexuelles, mais il y a très peu finalement de plaintes qui aboutissent. Donc on a abordé toutes ces questions sans aucun tabou.
Ouais, ils sont sensibles à l'actualité. Demain sera publié justement ce livre, Le consentement, de Vanessa Springora. Comment est-ce que vous vivez les débats autour de la parution de ce livre qui sont des débats qui paraissent insolubles?
C'est intéressant parce qu'on voit finalement toutes les étapes de cette libération de la parole. Ça avait commencé avec l'affaire Weinstein, on a parlé de l'affaire Epstein, on a parlé de différents sujets et maintenant on aborde la question, mais c'était des adultes. Alors dans l'affaire Epstein, non, c'était déjà des mineurs. Et là, on voit qu'on se dirige vers des atteintes aux mineurs et des libérations de la parole. C'est très intéressant aussi parce qu'on se rend compte que dans ces affaires, et c'est ce que j'ai découvert aux assises, ce sont avant tout des questions de prédation et de domination. C'est-à-dire que ce sont toujours des personnes en état de vulnérabilité. Dans l'affaire Weinstein, c'était des jeunes actrices qui voulaient des rôles, qui se retrouvaient dans une situation de fragilité. Et dans les cas de l'affaire Enel ou dans le cas de Vanessa Springora, c'était aussi une jeune mineure de 14 ans en position de vulnérabilité face à un homme plus âgé qui a les codes, qui avait les réseaux d'influence. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça participe de cette violence. Et je pense qu'on vit un moment très important, très fort. Et d'ailleurs, je suis plutôt optimiste pour l'évolution d'ailleurs des rapports parce qu'il y a une vraie prise de conscience de la société sur ces questions-là et sur les violences qui ont pu être commises pendant des décennies.
Ouais, alors que la période pourrait ne pas prêter à cet optimisme, Karine Thuil.
Bah, le fait qu'il y ait cette libération de la parole, le fait qu'il y ait aussi des personnes qui regrettent ce qui s'est passé, qui disent les temps ont changé, il y a quand même une remise en question de la société. Alors après, il y a toujours des gens qui se plaignent parce qu'ils disent on a un retour à l'ordre moral, au politiquement correct. Moi, je pense qu'on est dans le temps du dialogue et de la libération de la parole. C'est un temps qui est important, qu'il faut vivre pleinement, hommes et femmes, quelles que soient les générations. Et surtout, il faut entendre et légitimer la parole des victimes.
Mais on voit bien que, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la question de la parole est importante. Ça s'est vu dans l'affaire Adèle Haenel, par exemple, dans ce qu'elle a pu révéler. Ça se voit aussi dans l'affaire Matzneff. On a la parole, on a le pouvoir, et ça passe beaucoup mieux que si ce n'est pas le cas.
Oui, la parole, la prise de parole est une forme de pouvoir. Après, la grande question, c'est aussi la question des droits de la défense. Dans l'affaire Adèle Haenel, il y avait ce moment de parole, et ça, c'était un moment très fort. Moi, je trouve que c'est une actrice extraordinaire qui a eu un courage fou d'avoir cette parole-là. Et puis, il y a la façon aussi dont les choses se poursuivent. Il y a eu un moment où elle n'avait pas encore porté plainte, et là, effectivement, il y a une crainte, parce qu'il ne faut pas que le tribunal médiatique se substitue au tribunal à la justice. Et depuis, elle a porté plainte. Et c'est un exemple aussi pour toutes ces jeunes femmes qui ont subi ce genre d'abus et qui aujourd'hui peut-être auront le courage de porter plainte. Enfin, on en parle. C'est quand même très important.
En tant que romancière, vous, Karine Thuil, on parlait de la fonction de la littérature tout à l'heure, mais en tant que romancière, comment est-ce que vous vous placez dans ce genre de débat ? Est-ce que c'est votre place d'intervenir ?
C'est ma place, elle est finalement dans le roman. Moi, je dirais que le roman me permet d'appréhender la complexité des questions sociales, morales, politiques. Après, en tant que femme, en tant que mère, je peux aussi être amenée à parler de ces sujets. Et ça a été le cas d'ailleurs avec Les Choses humaines, parce que j'ai eu beaucoup de réactions de femmes qui me disaient, je me rends compte à quel point je n'ai pas la même conception. Si j'imagine que c'est ma fille qui est violée ou si je pense que mon fils est accusé à tort. Donc on voit bien aussi les différences de point de vue dans ces affaires. Chacun cherche à défendre son intérêt, chacun cherche à défendre son intégrité. Et puis il y a un phénomène que je décris dans le roman qui est le déni. C'est-à-dire que celui qui est accusé ne veut absolument pas se percevoir comme un agresseur. Donc il s'invente et il se crée une légende.
Parlons de cette littérature du réel. Alors, est-ce que vous vous inscrivez dans la littérature du réel ou dans la littérature de fiction, Karine Field? Ça, c'est une vraie question quand on vous lit, puisqu'effectivement, il y a ce rapport à la réalité, puisque vous faites allusion à des affaires qui ont été réelles, mais vous avez romancé l'ensemble.
Oui, moi j'aime bien m'inscrire dans cette école de la littérature du réel. Après, il y a effectivement des écrivains qui ont le souci de la réalité au plus près, donc qui racontent finalement aussi leur vie à un moment donné. Je pense à Emmanuel Carrère, par exemple, qui réfute tout recours à la fiction, ou Philippe Forest, qui avait écrit d'ailleurs un texte très intéressant sur ce sujet, le roman est en coma dépassé. Et alors que moi, je m'inscris dans une littérature du réel, mais qui se nourrit aussi de la fiction, parce que je considère que la fiction offre une liberté extraordinaire, nous permet aussi d'incarner des personnages qui sont extérieurs à nos vies. Donc ces deux conceptions, je ne m'interdis pas non plus de finalement d'utiliser le jeu, mais c'est aussi une façon d'appréhender la complexité de la société d'une autre façon. C'est finalement, ça rejoint aussi la question de la conception de la littérature, ce que peut la littérature. Et un roman, je crois que c'est finalement le lieu où l'on peut appréhender la violence du monde, les grandes questions politiques, sociales, morales, contemporaines, et finalement amener aussi le lecteur à s'interroger sur ses propres préoccupations.
Comment est-ce que vous travaillez cette matière, Karine Tuil?
Alors, je travaille un peu comme une journaliste, c'est-à-dire que moi, j'aime nourrir le livre à la base et à l'origine, il y a une enquête. J'aime rencontrer les gens sur un sujet donné. J'aime vraiment me nourrir de cette expérience, finalement, sur le terrain, parce que vous aurez beau lire des livres sur un sujet, rien ne vaut la puissance et la force d'une rencontre avec quelqu'un qui a vécu ce que vous allez décrire ou qui va vous raconter des éléments très précis sur sa vie, sur son travail. Et j'ai commencé à travailler de cette façon au moment de la parution de 12 France, il y a une dizaine d'années, puisque j'avais fait une enquête dans un centre de rétention administrative pour écrire ce roman. Et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler de cette façon-là, c'est-à-dire que se nourrir de l'actualité, enquêter, et puis en faire une matière extrêmement romanesque. Parce que moi, mon souci, c'est aussi de raconter une histoire, d'entraîner mon lecteur dans une histoire ample, et j'aime l'imaginaire, j'aime la fiction.
Le romanesque, effectivement, n'est pas oublié, et cette façon d'emmener le lecteur dans l'histoire, et pour le coup dans l'histoire de cette famille Farrell, effectivement, c'est quelque chose de très important, c'est un élément pour vous qui est très important.
Oui, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on recherche le réel à tout prix. On nous demande d'être au plus près de ce réel-là, y compris dans la description des personnages. D'ailleurs, je le vois bien, les gens me disent « Mais qui est Jean Farrell ? Mais qui est Claire Farrell ?» On recherche toujours le réel. Alors que moi, je veux pouvoir conserver cette liberté incroyable que représente aussi l'imaginaire et l'exploitation de cet imaginaire, que l'on a ou pas d'ailleurs. Hein. Tous les auteurs sont très différents sur ce point. Mais par exemple, je pense à un écrivain comme Houellebecq, dont j'aime beaucoup le travail. Il aborde des grandes questions de société, mais ça reste des fictions, même si parfois on peut dire que les personnages lui ressemblent un peu.
Ouais, la littérature, c'est une question aussi de liberté.
Tout à fait. Moi, je considère que la littérature, c'est peut-être le dernier espace de liberté totale, puisqu'on peut tout dire, tout écrire dans un roman. Il n'y a aucun tabou. C'est d'ailleurs l'occasion du débat par excellence. On le voit bien en librairie. Quand je vais en librairie, on a des questions absolument sur tous les sujets. Il n'y a absolument pas de censure. Et peut-être que oui, c'est l'un de nos derniers grands espaces démocratiques.
Alors, profitons-en. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Karine Tuil, je rappelle le titre de votre roman paru chez Gallimard et auréolé du prix Interallié, en plus du Goncourt des lycéens, Les choses humaines.